2 mètres, on va dire, pour faire rond. Un papa de 4 mètres, bon, ça commence à être difficile pour lui. Hein. S'il tombe, il est presque sûr de se casser. Un papa de 8 mètres, qui serait 4 fois plus grand, il serait 4 fois plus fragile. D'accord ? Donc, on ne peut pas imaginer des êtres aussi grands qu'on veut. Ça, Monsieur Galilée, l'astronome du XVIIe siècle, avait déjà compris ça. Il avait compris qu'un énorme cheval, il ne pourrait pas courir comme un plus petit cheval. Il avait imaginé comme un énorme cheval ou un énorme chien. Si on imaginait un chien qui soit haut comme moi, ça serait un chien très fragile probablement par rapport au chien que nous connaissons. D'accord ? Donc le rancor, s'il tombe, il a une bonne chance de se briser. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer des êtres aussi grands que Godzilla. Par exemple, le Godzilla des Japonais qui mesure 100 mètres de haut, lui, il n'a aucune chance. Il est même probablement tellement fragile que son propre poids va lui briser les os. Il est tellement lourd, imaginez un être humain qui soit énorme, alors la même taille, mais qui soit énorme, qui fasse 500 kilos, il ne peut plus bouger, vous voyez, parce qu'il casse, il va casser ou abîmer ses articulations, ses cartilages, etc. Donc on ne peut pas avoir d'être aussi grand que l'on veut. Alors, ça c'est sur Terre, si on marche sur le sol, mais si on est dans l'eau, regardez la baleine bleue. Voilà un humain, voilà la baleine bleue. Elle est beaucoup plus grande que les éléphants et que les humains, la baleine bleue. Parce qu'elle est dans l'eau, et que dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? La poussée d'Archimède, l'eau nous supporte un peu, supporte notre poids, c'est ce qui fait que nous flottons. Eh bien, l'eau, elle va permettre d'avoir des êtres beaucoup plus grands que les êtres terrestres. Donc, par exemple, la baleine ou l'orque. Et regardez, ça, c'est un pliosaure, c'est un animal disparu. Je l'ai mis parce qu'il est particulièrement marrant. C'est un grand carnivore marin d'il y a 150, à peu près 150 millions d'années. On peut imaginer des très grands êtres si la gravité est d'une certaine façon compensée par la poussée d'Archimède, par l'eau, par le fait qu'on est dans un liquide. Et puis il y a une autre façon, regardez ça, ça c'est dans Star Wars, ça c'est l'espèce, l'exogorthe, le ver géant que dans un astéroïde de Star Wars. Ici on le voit à peine, ce petit machin qui est là, c'est le Faucon Millenium, c'est un vaisseau interstellaire le Faucon Millenium, il y a des humains dedans, il doit faire au moins 20 ou 30 mètres de long. Hein. Donc ça doit faire, on va dire 20 ou 30 mètres de long, regardez ce truc là. C'est combien ? Il fait au moins 60 mètres de diamètre, 80 mètres de diamètre, des centaines de mètres de long, il est vraiment gigantesque lui, il est vraiment énorme, mais il vit sur un astéroïde. Un astéroïde dont la gravité est à peu près 1000 fois moins grande que la gravité terrestre, peut-être même 10 000 fois moins grande. Donc il n'est pas gêné par son poids. C'est comme s'il avait un poids nul, comme s'il était presque en impesanteur. D'accord ? Donc il peut être très grand si la gravité est très faible. Alors que sur Terre, avec la gravité qu'on a, on ne peut pas être aussi grand qu'on veut. D'accord ? Alors le problème de l'exogorthe, c'est qu'il est sur un astéroïde et que les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère. Donc il ne peut pas respirer. J'espère qu'il... Il mange du caillou, j'espère, parce que sinon, il n'a pas grand-chose à manger. Hein. Pour un être aussi gros, il faut qu'il trouve quelque chose à manger quand même. Hein. Ça, c'est important, l'énergie. Nous, on mange. Pourquoi on mange ? À votre avis ? Ça fait plaisir. Ça, c'est déjà un point. Hein. Bon, c'est déjà un point. Pourquoi on mange ? Dis-moi, à ton avis. Pour grandir ? Alors oui, ça, c'est ce que tes parents disent, parce que toi, si tu ne manges pas bien, tu dis « Oh là là, tu manges bien, tu ne vas pas grandir. » Alors, quand on est comme toi, effectivement, c'est pour grandir, ça permet de grandir. Il y a une partie de ce que tu manges qui va servir à te faire grandir. C'est tout à fait juste. Dis-moi. Pour vivre, exactement, ça veut dire quoi ? Pour vivre, c'est tout à fait juste. Alors, pour grandir, pour vivre, ça veut dire que nous, notre corps, on consomme de l'énergie. Pourquoi on consomme de l'énergie ? Parce qu'on est plus chaud que l'extérieur. Moi, je suis plus chaud, vous êtes plus chaud que l'extérieur. Et donc, là, vous le sentez bien, moi, j'ai un peu frais déjà. Vous voyez que vous avez gardé vos manteaux, vous êtes plus malin. On est plus chaud que l'extérieur et donc notre énergie, elle chauffe, on chauffe l'extérieur par notre corps qui est plus chaud que l'air. Et donc ça, déjà, ça nous coûte de l'énergie. Et puis, il faut bien bouger, sauter, courir, réfléchir, respirer, le cœur bat, le sang circule, ça coûte de l'énergie. Donc, il faut cette énergie-là pour vivre. Ça, c'est pour vivre. D'accord ? Il faut avoir cette énergie-là. Si vous ne compensez pas cette énergie que vous perdez, vous allez mourir à un moment donné. Ceux qui font la grève de la faim, à un moment donné, ils ont des problèmes. Hein, et ils finissent par mourir s'ils la font trop longtemps. Et puis, quand on est plus jeune comme vous, il faut manger pour grandir, parce que vous êtes en développement. D'accord ? Donc on mange pour faire fonctionner la machine humaine, finalement, le corps humain. Faire fonctionner et développer le corps humain. Donc lui, il a besoin de manger aussi, hein, évidemment. Les extraterrestres, ils auront besoin d'énergie aussi. Ils auront besoin de manger. Alors, est-ce que nous, on mange ? Nous, on mange quoi ? Des plantes et des animaux. Mais les plantes, elles mangent quoi, par exemple ? Des minéraux, oui. Qu'est-ce qu'elles mangent aussi ? Tu voulais dire ça, des minéraux ? Des minéraux ? C'est-à-dire ce qu'elles prennent dans le sol, elles mangent juste du gaz carbonique. Elles prennent du gaz carbonique de l'air, elles le transforment en plantes, en feuilles, voyez, et puis elles produisent de l'oxygène en faisant ça. Donc les plantes, elles mangent un gaz. Donc il pourrait y avoir des extraterrestres qui mangent du gaz. Enfin, toi, les plantes, c'est des êtres vivants, terrestres. Dis-moi, jeune homme, mais je ne vais pas t'entendre si tu es si loin. Viens me voir jusqu'ici si tu posais ta question, viens. Approche-toi. Et puis on va prendre un micro comme ça permettra de t'entendre aussi. Je suis en train de réaliser qu'il y a plein de micros.
Tiens, n'hésite pas, qu'est-ce que tu voulais dire comme question ? Dis-moi.
Aussi.
Les plantes carnivores, elles mangent des mouches.
Ah oui, exactement. Tu as exactement raison. Merci de ton intervention. Il y a des plantes qui ne mangent pas que du gaz carbonique. Il y a des plantes carnivores qui mangent des mouches, qui mangent des animaux, finalement. Merci, très bonne remarque. Donc, il y a des plantes bizarres qui mangent des animaux. Il y a des animaux qui mangent des plantes, c'est les herbivores, et il y a des animaux qui mangent les animaux qui mangent des plantes et qui mangent des plantes. Nous, on mange les animaux qui mangent des plantes, on mange les vaches et les cochons, on est des carnivores aussi, puis aussi, on mange des plantes. Puis il y a les lions, ils mangent que des animaux. Donc, il y a un peu tout ça. Et donc, les êtres extraterrestres, ils auront besoin, à un moment donné, de manger quelque chose. Ça, c'est un point important. Et donc, lui, le fait qu'il soit sur un astéroïde où il n'y a rien du tout que des cailloux et il n'y a même pas d'atmosphère, on se demande bien comment il peut manger. Ça, c'est un problème. Ça sera un problème. Ah oui, ça, c'était le Faucon Millenium. Alors voilà, on est dans Avatar maintenant. On va parler un peu de locomotion. Là, on voit au premier plan, on voit un Thanator qui a 6 pattes. 3 ici, 3 de l'autre côté. Et puis derrière, on ne les voit pas bien, c'est les titanotériums. C'est des croisements entre un espèce de rhinocéros. Et puis devant, le rostre, ça évoque un requin-marteau. Pareil, il a 6 pattes. Alors là, c'est pour montrer que d'abord aussi, quand ils font ces êtres extraterrestres au cinéma, ils font souvent ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire un mélange entre plusieurs morceaux d'êtres terrestres. Par exemple, là, ils ont mélangé celui-là, il ressemble à quoi? Quel est l'animal terrestre qui ressemble un peu à celui-là? Un loup, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou un gros chien noir, enfin un loup, ou un chacal, ou un carnivore désagréable. Ils ont un peu changé, ils ont mis des choses un peu différentes, et puis ils ont mis 6 pattes, pour faire bizarre. Et puis derrière, le titanotherium, il ressemble à un croisement entre un rhinocéros et un requin-marteau. Donc ça, c'est souvent le cas, des chimères. Regardez sur celui-là, ça c'est dans John Carter. Regardez là, lui, il va avoir des problèmes manifestement. Et voilà, il a 6 membres. Là, ça ressemble à quoi, celui-là? C'est un croisement entre quoi et quoi, à votre avis? À quoi il ressemble? Dis-moi. Un gorille, exactement. Et puis quoi encore? Jeune fille. Une araignée. Alors pourquoi une araignée? Ah, les araignées, elles ont 8 pattes. Ah, c'est 8 pattes, les araignées. Mais les insectes, ils ont 6 pattes. Mais un genre d'insecte, quoi, voilà. À 6 pattes, c'est les insectes. Sur Terre, ce sont les insectes. Donc, beaucoup, les insectes qui ont 6 pattes. 8 pattes, les araignées. Puis il y a aussi les myriapodes. Il y en a qui ont plein de pattes. L'espèce de ver, les 1000 pattes, qu'on appelle les 1000 pattes. Mais regardez avec ces grosses dents là, comme ça là. Ça existe sur Terre des trucs qui ont des grosses dents comme ça? Des grosses canines? Ça, ah voilà, ça a existé. On appelait les tigres à dents de sabre. Voilà, donc c'est un peu un tigre à dents de sabre avec des grosses dents comme ça. Mais il y a aussi remarqué, par exemple, les morses. Vous connaissez les morses? Hein? Les morses, ils ont deux grandes. Et puis en plus petit en dessous, ils ont 2 grandes canines comme ça. Dis-moi. Et l'éléphant, alors l'éléphant, on ne lui sait pas, il n'y en a que 2 qui font vers l'avant. Mais c'est exactement ça, l'éléphant. Les défenses de l'éléphant, ce sont ses dents qui ont poussé. Le mammouth aussi, exactement. Le mammouth, qui est comme un éléphant. Ah, il y a Rodolphe qui est là. Salut, Rodolphe. Et donc, voilà, ça, c'est encore une chimère entre un singe, un tigre à dents de sabre, un éléphant, un morse. Et là, pareil, regardez les mains, il a des pouces. Hein, regardez, à chacune de ses mains, il a un pouce. Ça veut dire qu'il a un doigt qui peut se mettre à l'opposé des autres. Hein. Comme les quadrumanes, on appelle les primates, on les appelle aussi pour certains d'entre eux les quadrumanes, parce qu'ils ont des mains comme nous, et leurs pieds, est-ce que nos pieds sont des mains? Ça a l'air idiot de dire comme ça, mais notre gros orteil, on ne peut pas faire une pince comme ça. Notre gros orteil, essayez de saisir un truc avec vos pieds, vous allez voir, ce n'est pas facile. Pieds nus, évidemment, pas avec les chaussures. Hein. Avec les chaussures, ce n'est pas facile. Vous essayerez, ce n'est pas facile, parce que votre pouce, votre gros doigt de pied, vous ne pouvez pas le mettre en face des autres petits doigts. Hein. On ne peut pas faire ça. Elle est à côté, puis c'est pas facile. En plus, ils sont courts, c'est pas facile à saisir. Lui, il peut saisir ce qu'il veut. Donc, encore une fois. Alors, le fait qu'il y ait 6 membres, ça n'améliore pas du tout la locomotion. Il n'y a pas de raison, on ne marche pas mieux parce qu'on a 6 membres. On ne court pas mieux parce qu'on a 6 membres ou 4. Hein. 4 suffisent bien. Les insectes en ont 6, mais leur structure, la façon dont est organisé leur plan corporel n'est pas le même que nous. Nous, on a un squelette interne, alors que les insectes, ils ont un squelette externe. Et un squelette externe, on peut montrer que c'est plus facile de mettre des membres externes. Alors que nous, si on voulait rajouter 2 bras ici, un ici qui sort et un autre là, par exemple. Sur ma colonne vertébrale, il faudrait rajouter des articulations comme j'ai au niveau des épaules. Et ça rend la chose, le plan corporel, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fragile surtout. Donc ce n'est pas très rentable d'avoir 6 membres quand on a un squelette interne. Ce n'est pas très rentable. Il n'y a aucun animal sur Terre qui a 6 membres à squelette interne. Alors, et en plus, il y a un autre truc sur la taille. Il faut y penser, ça a l'air de rien, mais il faut y penser. C'est que, comment ça se fait qu'on bouge? Pourquoi je dis, voilà, mon bras il bouge, pourquoi il bouge? Comment ça se fait qu'il bouge? Dis-moi. Ah, les articulations, ça c'est la mécanique du bras, exactement. Si j'avais un bras sans articulation, il serait comme ça. J'aurais un bras un peu bête, il ne bouge pas. Ce serait quoi, comme une corne de cerf finalement? Mais alors, pourquoi il bouge maintenant? C'est-à-dire, ça c'est la mécanique, mais Là, il ne bouge pas. Et là, il bouge. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, c'est mon cerveau qui a dit au muscle, fais ci, ça. Alors, il ne l'a pas dit, tu vois, il a dit, je ne sais pas comment ça se passe. On a dit, bouge, et hop, ça a bougé comme ça. D'accord ? Parce que c'est mon cerveau qui a parlé au muscle. Okay ? Alors maintenant, imaginons que je sois très grand, par exemple, comme ce truc-là de Mars. Très, 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 très grand. À votre avis, combien de temps ça met quand mon cerveau il parle à mon bras ? Est-ce que ça va vite ou est-ce que ça ne va pas vite ? Pas très vite, mais comment on peut se rendre compte que ça ne va pas très vite ? Par les réflexes. Imaginons que je vous pique le bout du doigt. Doucement, hein, pour ne pas vous faire mal. Je pique le bout du doigt. Vous allez retirer le doigt, évidemment. Mais combien de temps ça prend, à votre avis, pour... Je vous pique le bout du doigt et vous retirez le bout du doigt, le réflexe du doigt. Vous avez une idée du temps que ça prend ? Ça prend quelques centièmes de seconde. Quelques centièmes de seconde. C'est très rapide. C'est très rapide, mais pourquoi c'est très rapide ? Parce que mon bras n'est pas très long. Parce que quand je pique le bout du doigt, il y a l'influx nerveux qui se propage dans mon bras jusqu'à mon cerveau qui dit « Ouais, ça pique !» Et le cerveau dit « Oh, ça pique, c'est pas bien !» Ça revient et ça dit « Ça pique !» Ça revient pour dire « Enlève ta main !» Comme quand on se brûle, on touche, hop, on enlève tout de suite parce que c'est chaud. D'accord ? Il a fallu que l'influx nerveux il aille du doigt au cerveau et qu'il revienne. Ça prend du temps. L'influx nerveux, il ne va pas aussi vite que ça. Il fait 30 mètres à peu près en une seconde. Ce qui est pour faire 2 mètres, il met un peu moins d'un dixième de seconde, quelques centièmes de seconde. Mais imaginez un être très, 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 très grand. Je lui pique les fesses. Ça va l'énerver. Si c'est un truc comme ça, ça va l'énerver. Mais le temps que ça arrive à son cerveau, on m'a piqué les fesses, ça m'énerve. Bouge la patte. Vous avez compris ce qui va se passer ? Si l'être il est très très grand, ça mettra du temps pour arriver à son cerveau et puis pour revenir et pour donner l'ordre à la patte de donner un coup. D'accord ? Donc un être très très grand, vous pouvez lui piquer les fesses. Si vous repartez assez vite, le temps que ça arrive à son cerveau, que ça revienne, peut-être il n'aura pas le temps de bouger. D'accord ? Donc les êtres très grands, ils ont un autre problème. On parlait tout à l'heure de la gravité, du poids qui va les écraser. Mais ils ont un autre problème qui est qu'ils auront des réflexes pour le moment très lents. D'accord ? Ils mettront du temps. Alors c'est pour ça qu'on sait que sur les grands dinosaures dont on parlait tout à l'heure, les grands dinosaures, ils avaient un cerveau assez petit dans le crâne, mais au niveau du rachis, là, quelque part par là, ils avaient un deuxième renflement dans la moelle épinière, un deuxième centre nerveux qui n'était pas comme un cerveau, mais qui était une sorte de centre secondaire pour contrôler les muscles et les pattes arrière. Parce que sinon, vous donnez un coup de pompe au dinosaure, le flux nerveux, le temps qu'il fasse les 30 mètres du dinosaure, ça prend plus d'une seconde. Il dit « Oh, on m'a donné un coup de pompe, ça m'énerve. » Ça revient pour que la queue vous balaye. Et ben vous êtes parti, il ne s'est rien passé, vous voyez, d'accord ? Donc, pour pouvoir réagir à ce qui se passe, alors en général, on ne donnait pas un coup de pompe à un dinosaure quand même, parce que, bon, comme il est gros, on se dit « On va se méfier quand même. » Mais, puis d'abord, il n'y avait pas d'humain à l'époque des dinosaures. Mais voilà, c'est pour dire qu'un grand animal aussi, ça pose des problèmes de coordination. D'accord ? Alors que les insectes qui ont 6 membres, il y a tous ces membres à coordonner, à faire bouger ensemble, que ça se passe bien. D'accord ? C'est compliqué. C'est très compliqué de faire ça. Et donc, ils ont besoin d'être de petite taille et avec un système nerveux, même éventuellement délocalisé dans le cas des insectes. Il n'y a pas de système nerveux, pas forcément de système nerveux central. C'est un système automatique qui est délocalisé comme en parallèle, on dirait, pour ceux qui font de l'informatique. C'est comme si c'était un système en parallèle pour gérer tous les membres des insectes, à beaucoup de membres, les myriapodes, par exemple. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, les banshees. Alors les banshees, ça, ils sont sympas. C'est ces êtres volants que l'on voit, ces êtres volants là que l'on voit dans Avatar. Et puis on voit un Na'vi. Un Na'vi, ça, c'est un des autochtones, des extraterrestres humanoïdes. Et ils ressemblent beaucoup aux humains. Ils sont bleus, ils font 3 mètres de haut. Ça, c'est pas mal, 3 mètres. Hein. On peut estimer que l'humain le plus grand possible, c'est à peu près 3 mètres. Donc ça, c'est bien. Ils ont bien choisi la taille. Et l'humanoïde, hein, avec deux bras, deux jambes et un corps. Et puis, si lui, déplié, il fait 3 mètres, alors... Ça, l'envergure, c'est à peu près 10 mètres d'envergure. Hein. C'est le banshee, c'est un grand être volant, vraiment un grand être volant. Alors, vous connaissez les oiseaux, les plus grands oiseaux sur Terre ? Vous avez une idée de ce que c'est le plus grand oiseau, le plus grand être volant sur Terre ? Essayez de parler très fort. Le condor, super. Super. Et alors, il y en a un autre qui est presque aussi grand que le condor. Le condor, regarde, il y a le condor et puis il y a l'albatros. C'est les deux plus grands oiseaux sur Terre qui font 3 mètres d'envergure. Et puis les plus grands possibles, les plus grands êtres vivants volants sur Terre, c'est ce qu'on appelle des ptérosaures. Voilà un ptérosaure qui s'appelle Quetzalcoatlus, il faisait 10 mètres d'envergure. On a un squelette, je vais vous montrer, de ptérosaures, ça existe, de Quetzalcoatlus, ça existait. Les ptérosaures, alors je précise quand même, en dépit du ça finit par zore comme dinosaure, mais les ptérosaures, ce ne sont pas les dinosaures. Hein. C'est une autre catégorie d'animaux qui ont disparu, qui sont les ptérosaures. Les dinosaures, quels sont les descendants des dinosaures sur Terre actuellement ? quelque chose qui descend des dinosaures. Les oiseaux, exactement. Les oiseaux, les poulets. Respect pour les poulets. Hein. Les poulets, ça a deux pattes, ça a des petits yeux. Regardez les yeux des poulets. Regardez bien comment ça vous regarde un poulet. Comme ça a l'air comme ça a l'air un peu minable. On se dit, ouais, barre-toi, quoi. C'est minable, les poulets. Mais imaginez que vous êtes tout petit par rapport à un poulet. Vous êtes grand comme 3 cm. On vous pose à côté d'un poulet qui vous regarde comme ça, là, avec son bec, ses petits yeux. Essayez de regarder ses petits yeux. Vous allez voir, les poulets, ils ont des petits yeux inexpressifs. Hein, pour nous, ça ne nous parle pas. Ils ont des petits yeux méchants, on dirait, pour nous. Ils arrivent avec votre bec. Imaginez qu'ils vous picorent comme ça. Vous rigolez pas, quoi. Hein. Donc, les poulets, voilà, c'est. Vous imaginez le tyrannosaure maintenant. Ben, le tyrannosaure, ce n'est pas un poulet, mais c'est sur deux membres. Ça a deux petites pattes, comme le poulet qui a des ailes. Il a deux petites pattes devant. C'est un carnivore, le tyrannosaure. Hein. Mais il y a un être vivant qui ressemblait à un oiseau. Enfin, qui ressemblait à un oiseau moderne, qui s'appelait le... L'oiseau-terreur. L'oiseau-terreur qu'on trouvait dans les plaines de ce qui est maintenant l'Argentine et le sud de l'Amérique du Sud, la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et c'était un être qui faisait 2m30, 2m50 de haut, qui a un très gros bec, et donc il vous regarde comme ça, vous le regardez comme ça, il est là au-dessus, et qui court très vite, et puis si vous met un coup de bec, je pense qu'il vous ratatine d'un coup, quoi. Donc respectons les oiseaux, les poulets, ça a l'air un peu minable, on les mange, nous, mais c'est des descendants des dinosaures. Et donc, les dinosaures sont encore présents sur Terre par les oiseaux. Les ptérosaures ont disparu. Regardez, 10 mètres d'envergure par rapport à un humain. Vous voyez, c'est des êtres énormes hein, qui ont volé sur Terre. Ils volaient. Ils planaient avec les ailes ouvertes et ils volaient aussi en battant des ailes. On estime leur masse entre 70 et 100 kg. Comme on n'a que des squelettes, ce n'est pas facile. Voyez, ça, c'est un squelette de ptérosaure avec un long bec. Un des ptérosaures, vous connaissez bien, c'est le... Ça y est, c'est le nom pas encore. Bon, ça va revenir. Le pteranodon, exactement. Voilà, il faut faire confiance aux enfants qui ont une bonne mémoire. Pteranodon, exactement. Quetzalcoatlus, c'était beaucoup plus grand que le pteranodon. Alors voilà un Quetzalcoatlus. Ça fait 10 mètres d'envergure. Regardez comme il est mis. Il est mis sur 4 membres. D'accord ? Il est à 4 pattes, entre guillemets, sur le sol. C'est pas comme un oiseau qui marche à 2 pattes. L'oiseau a 4 membres, 2 ailes, 2 pattes, mais il marche sur 2 pattes sur le sol, hein, les oiseaux. Alors que là, lui, il est mis sur le sol à 4 membres. Ça, on le sait à cause des eaux, la forme des eaux au niveau du bassin. On sait que ces êtres-là ne marchaient pas sur 2 pattes au sol. Ils avançaient sur 4 pattes. Alors, il faut remarquer aussi que cette chose-là, c'est un doigt. Hein, je le montre, regardez, ça, c'est un ptérosaure. L'épaule, le coude, la main a 4 doigts et un très, très, très grand doigt qui sert de structure à la peau. Le patagium, c'est cette peau qui sert d'aile, finalement. Ça, c'est quoi? C'est un mammifère, c'est une chauve-souris. Donc, il y a des mammifères volants, vous avez compris la chauve-souris tout de suite, qui a 5 doigts. Elle a 4 doigts là et 1 pouce pour s'accrocher. Et puis là, c'est l'oiseau, un poulet, par exemple un oiseau, qui a comme nous l'épaule, le coude, le poignet, les doigts. Ça, c'est ses 4 doigts, le pouce et tous les autres doigts se sont rassemblés en un seul. Elle a plus que 2 doigts, les poulets. Si vous regardez, quand vous mangez un poulet, regardez bien comment c'est fichu. Il a plus que 2 doigts, le poulet, dans l'aile. Ce que personne n'aime manger, là, l'aile. En général, c'est la maman qui mange parce qu'elle sacrifie, ou le papa qui sacrifie. Les enfants mangent le blanc qui est plus bonnard. Ben là, à cet endroit-là, il n'y a que 2 doigts. Donc, il y a eu plusieurs fois, le vol a été inventé plusieurs fois sur Terre. Ce qui semble vouloir dire, on peut se dire après tout, s'il existe des extraterrestres, peut-être qu'ils vont inventer le vol aussi. Il y aura aussi des animaux volants, un peu comme les banshees d'Avatar, c'est tout à fait possible, puisque ça a été inventé finalement sur Terre, inventé entre guillemets, par les ptérosaures, par les dinosaures, par les oiseaux maintenant, et par les mammifères, d'accord, par 3 catégories d'êtres qui n'ont rien à voir et qui ont chaque fois, entre guillemets, inventé le vol. Et je ne raconte pas tous les insectes. Non, je parle du vol battu, on bat des ailes pour voler. Les insectes, ils volent de manière assez différente. Voilà. Alors voilà, regardez comme il est posé, comment il est posé sur le sol. Regardez comment est posé un banshee. Regardez l'aile pliée, et là, c'est replié. Ils ont posé le banshee sur le sol exactement comme on pense qu'étaient posés les ptérosaures. Les gens d'Avatar, qui ont fait le film Avatar, ils n'ont pas fait complètement au hasard. Ils ont changé un peu la gueule de la bête. Vous voyez, ils n'ont pas mis ce long bec là, cette espèce de long bec. Ils ont mis quelque chose qui ressemble plutôt, à un dragon, d'accord. Mais ils ont mis les ailes exactement posées comme on aurait posé les ailes, comme on aurait posé un ptérosaure, d'accord. Alors autre chose qu'ils ont faite, regardez, comment il respire le banshee à votre avis? Regardez là. Vous les voyez, les narines? C'est là où on s'attend à voir les narines d'habitude. Alors, elles sont où, les narines? Exactement, elles sont là. Elles sont là, les narines. Il y a 2 trous là, vous regarderez dans le film. Ça s'ouvre et ça se ferme, ces trous dans le film. On les voit très clairement s'ouvrir et se fermer. Ça ressemble à quoi, des trous qui s'ouvrent et qui se ferment pour respirer? Quel animal sur Terre a ça? Alors, les poissons, ils ont plutôt des branchies, d'accord? Et ils respirent. Dans l'eau, enfin ils respirent, ils prennent l'oxygène de l'eau. Là, il respire un gaz. Alors, je vais dire, je vais être plus précis, vous allez tout de suite trouver un animal marin qui respire de l'air et qui a un truc qui s'ouvre et qui se ferme. Dis-moi. J'entends pas ? Le dauphin, exactement. Le dauphin, sur la tête, les dauphins, ils ont un évent qui s'ouvre et qui se ferme. Et c'est par là qu'ils respirent de l'air. Les dauphins respirent de l'air. Et après, ils retiennent leur respiration, ils vont sous l'eau, ils ressortent. Les dauphins ne sont pas des poissons. Les dauphins sont des mammifères comme nous, comme les humains, les vaches et les cochons. Et donc là, il y a deux évents comme les dauphins. D'accord ? Donc ils ont mélangé le dauphin pour les évents, une tête qui ressemble un peu à une tête de dragon, avec des dents comme des dents de crocodile, des dents de reptile, des dents pointues. Je dis les dents de reptile parce que nous, les dents, on a 10 dents différentes. On a les dents devant, les incisives qui vont trancher, les canines qui vont percer et les molaires qui vont écrabouiller. Les éléphants, ils n'ont qu'une seule sorte de dents, ils n'ont que les molaires, un truc qui écrabouille pour écrabouiller les herbes. Et puis leurs canines, là, c'est juste les défenses. Pas les canines, mais oui, les canines, oui, sont les dents devant les défenses. Et puis les crocodiles, regardez les dents des crocodiles, enfin en photo, hein, pas en vrai, parce que de trop près, ça fait mal. Les dents de crocodile, vous verrez, ils ont toutes les mêmes dents. Elles sont plus ou moins grosses, mais elles ont toutes la même forme de dents, que des dents pointues en forme de cône. Parce que les crocodiles, essentiellement, ils attrapent la bête, ils la noient pour la tuer. Après, ils arrachent des bouts, puis ils avalent les bouts tout ronds. Ils ne mâchent pas. Ils avalent comme ça tout rond les crocodiles. D'accord ? Eh bien, c'est pareil pour les dauphins. Un dauphin, il a des dents comme ça aussi, des dents coniques. Toutes les mêmes dents. Parce que le dauphin, comment il fait pour attraper un poisson ? On lui donne le poisson, ou il l'attrape dans l'eau, il le prend, et qu'est-ce qu'il a fait ? Après, il l'avale tout rond. Il ne le mâche pas, et comme nous, on mâche. Et on vous dit de bien mâcher d'ailleurs. Il l'avale tout rond, le poisson. Et pourquoi il peut l'avaler tout rond ? Et c'est ce que vous avalez tout rond, vous, d'un coup, sans mâcher ? Est-ce qu'on fait ça, nous ? Des fois, ça arrive, hein, un bonbon, des fois, on suçote un bonbon. Bon, on a de la chance, c'est passé dans le bon tuyau. C'est-à-dire du côté de l'œsophage, vers l'estomac. Mais nous, juste à côté, il y a un autre tuyau qui s'appelle la trachée artère. Voilà, la trachée artère, par lequel on fait passer l'air. Et selon qu'on respire ou qu'on avale, il y a un petit système qui fait passer l'air ou qui fait passer la nourriture. Et il ne faut pas se tromper. Alors, l'avantage, c'est que si mon nez, il est bouché, j'ai l'air un peu bête, mais je peux respirer. D'accord ? Et si ma bouche est fermée, je peux manger en passant un tuyau par le nez, ou pour les plus petits-enfants, pas vous maintenant, vous avez grandi, mais les tout petits-enfants, des fois, ils avalent par le nez parce qu'ils jouent avec la cuillère, ils mettent la purée dans le nez. C'est pas très pratique. Hein. En général, on leur dit non, c'est pas ça l'astuce. Ça marche. D'accord ? Parce qu'à l'arrière du nez, la gorge, elle communique avec l'arrière du nez. Donc on peut avaler par le nez, on peut avaler par... C'est pas pratique. On peut avaler par la bouche, on peut respirer, on respire en général par le nez, on peut respirer par la bouche. D'accord ? Nous, on a deux tuyaux qui sont parallèles et qui se rejoignent à l'arrière de la gorge. Alors qu'un animal comme le banshee et comme le dauphin, les vents, il y a un tuyau qui va au poumon et il y a un tuyau par la bouche qui va à l'estomac. Et ces deux tuyaux sont complètement séparés. Ça veut dire que le dauphin peut avaler tout rond, il n'y a aucune chance que ça passe dans le mauvais tuyau. Et quand il respire, il n'a qu'un seul tuyau. Si vous mettez un bouchon sur les vents du dauphin, il est mort. Parce qu'il ne peut plus respirer. Si vous bouchez le nez, je peux encore respirer par la bouche. Le dauphin, non. Et bien là, c'est pareil. Si on devait imaginer cette tête, si on bouche ces deux trous-là, lui va mourir. Il ne peut pas respirer par la bouche, probablement, s'il fonctionne comme un dauphin. Et par contre, on sait que pour attraper un être, pour le manger, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il est petit, si c'est un petit enfant comme vous, il le prend, il l'avale d'un coup, parce qu'il est assez petit. S'il est grand, comme ce papa qui est là, alors c'est un grand papa, il ne va pas l'avaler d'un coup, alors il va le saisir, il va le taper par terre pour en faire des morceaux. Ça rigole pas, hein, vous voyez, je fais des expériences cruelles, hein, mais c'est une expérience imaginaire, donc tout va bien. Il va le casser en morceaux, il va l'écrabouiller, il a l'air d'avoir des grosses mâchoires. Et après, les plus petits bouts qu'il aura fait, il va les prendre un par un pour les avaler tout rond. D'accord ? Donc on peut savoir comment mange cet être uniquement à partir de sa morphologie, en la comparant à la morphologie des êtres terrestres. C'est ça qui est intéressant. C'est de se demander est-ce qu'il est plausible ou pas ? Probablement pas. Si des êtres comme ça n'existent probablement pas. Enfin, en réalité, on n'en sait rien. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont fait, cet être-là, dans Avatar, en s'inspirant d'êtres terrestres. C'est vrai de la plupart des êtres extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction ou dans les œuvres de science-fiction. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander à quoi ça ressemble sur Terre et comment ça pourrait donc fonctionner. Faire une sorte d'enquête scientifique, finalement, sur ces êtres. C'est ça que je trouve, moi, le plus intéressant. C'est pas tellement de se demander, bah, ça marche pas, et puis de dire, tout ça, c'est de la merde. Moi, j'aime bien ces œuvres de science-fiction-là, j'aime bien ces films de science-fiction, donc mon but, c'est certainement pas de les détruire en disant, ça marche pas. C'est de se dire, comparons avec le monde terrestre, comparons avec les animaux terrestres, apprenons des choses sur le monde terrestre, et essayons de comprendre comment ces êtres-là fonctionnent. Alors, il reste 5 minutes. Donc j'étais bavard. Je vous avais vu l'image, alors je ne peux pas la chanter. Je ne peux pas la chanter parce que vous avez vu. On va en parler un peu de ces êtres. Alors ceux-là, c'est les grosses têtes. J'appelle ça les grosses têtes de l'ASF. Voilà, ils ont un gros cerveau. Bon, il a l'air méchant, lui. Il n'a pas des petits yeux, mais regardez, il a un squelette, enfin, il a une tête vraiment pas agréable. Hein. Il a une tête squelettique, pas agréable. Et il a un gros cerveau. Et... Alors, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien, on va dire ? Critiquons, discutons sur ce cerveau. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on voit ce cerveau ? Ou la tête de cet être-là ? Dis-moi. On dirait qu'il est intelligent. Alors, pourquoi intelligent ? Ah, voilà, alors, pourquoi on dirait qu'il est intelligent ? Tu as une raison ? J'ai juste comme ça, tu... Parce qu'il a un gros cerveau. Voilà, on dirait qu'il est intelligent parce qu'il a un gros cerveau. Premier point. Deuxième point, est-ce que vous voyez d'autres choses à dire ? Est-ce que ça ressemble à un cerveau des humains ? On n'a pas toujours vu des cerveaux d'humains. En général, on les voit dans les livres de biologie. Dis-moi. Il est pas protégé, tu as raison. Son cerveau, il n'est pas protégé. Alors en fait, tu as raison. Il n'est pas protégé. Ça veut dire qu'il a quand même cette espèce de casque-là qui le protège, mais ce n'est probablement pas une protection du cerveau, c'est pour pouvoir, une sorte comme un scaphandre. Comme nous, les humains, quand nous allons dans l'espace pour respirer, il nous faut un scaphandre pour avoir de l'air pour respirer, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Alors là, il a un scaphandre, mais ce n'est pas pour protéger son cerveau, c'est pour lui donner de l'air martien, puisque c'est un martien. D'accord ? Donc il n'est pas protégé, son cerveau, effectivement. Dis-moi. Ah oui, il a un cerveau en deux parties. Mais comme nous, notre cerveau, il est aussi en deux parties. On a le cerveau droit et le cerveau gauche. Son cerveau ressemble pas mal dans sa structure, dans sa surface, à notre cerveau. Et ce qu'on appelle tous ces petits zigouigouis là, on appelle des circonvolutions. D'accord ? Des circonvolutions. Et il a l'air intelligent parce qu'il a un gros cerveau. Il est coupé en deux avec des circonvolutions comme notre cerveau. Et il n'est pas protégé. Alors ça, le coup de « il n'est pas protégé », c'est un coup terrible, quoi. Notre cerveau, il est protégé par la boîte crânienne. Tous les êtres vivants terrestres qui ont un cerveau ont une boîte crânienne qui les protège. D'ailleurs, ça forme un embranchement des êtres vivants qu'on appelle les craniates. Les craniates, ils sont apparus il y a 480 millions d'années. Et le cerveau, il est apparu avec les craniates. Enfin, le crâne ou la boîte crânienne et le cerveau, c'est apparu en même temps. Il n'y a pas eu le cerveau d'abord et les crânes après. Ou alors les crânes vides d'abord et puis le cerveau ensuite. Hein, d'accord ? C'est pas les... c'est apparu les deux en même temps, évidemment. Le crâne pour protéger le machin important. Hein. Donc les craniates, alors eux, ce n'est pas des craniates, manifestement. J'en ai un autre que vous connaissez peut-être moins pour les enfants. Celui-là, il est sympa aussi. Hein, regardez. C'est un des extraterrestres d'un film qui s'appelle Les Survivants de l'Infini, un film de 1955. Il a un cerveau aussi qui a l'air sans protection, avec beaucoup de circonvolutions et sans crâne. Alors sans crâne, on n'y croit pas trop. Hein. Mais alors celui-là, si on reprend celui-là, sans crâne et beaucoup de circonvolutions, pourquoi il est circonvolution ? Pourquoi ça fait tous ces trucs bizarres dans notre cerveau ? C'est parce qu'il a fallu, pour nous, dans un volume qui est la tête, le volume de notre crâne, il a fallu faire rentrer le cerveau. Bon, il est rentré, il était adapté, mais quand notre cerveau évoluait, il a voulu augmenter la surface du cerveau. Mais quand vous avez un volume qui est fixé, qui est la boîte crânienne, la surface du cerveau, elle peut augmenter que par des zigouigouis dans tous les sens. Si vous prenez par exemple les rats, ils ont un crâne, ils ont un cerveau, il n'y a presque pas de zigouigouis, presque pas de circonvolution sur les crânes des rats. Hein, des rats ou des petits animaux, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas un cerveau aussi développé que le nôtre, et ils n'ont pas besoin d'avoir toute cette circonvolution. Donc pour qu'il y ait des circonvolutions, il faut qu'il y ait une boîte crânienne aussi, qui empêche, qui contraint le volume du cerveau à rester constant, et si la surface du cerveau veut augmenter, la seule façon c'est les zigouigouis, c'est les circonvolutions. Il y a une autre difficulté aussi, c'est que, regardez, on ne le voit pas bien là, mais regardez ces êtres-là, ils ont des hanches qui ont l'air assez étroites. Imaginons les martiennes qui doivent accoucher de ces êtres-là, si ce sont des mammifères, si elles ont les hanches étroites, ils passent comment le cerveau ? C'est un gros problème, ça. Hein ? Pour les humaines, pour les femmes terrestres, le gros problème, c'est faire passer la tête du bébé. Hein ? C'est là où il y a le cerveau. Le cerveau, il est fait une fois pour toutes. Après, il évolue un peu, mais il ne grossit pas beaucoup. C'est passer la tête du bébé. Le cerveau humain, il ne peut pas être aussi gros qu'on veut. Ou s'il doit être plus gros, il faut que les hanches des femmes soient beaucoup plus larges. Hein. Donc si l'humain évolue vers un humain avec un plus gros cerveau, les femmes, elles vont évoluer avec des hanches aussi très larges. Hein. Donc on a une idée conjointe de l'évolution entre la taille des hanches, on est des mammifères, nous. Hein. Donc les femmes accouchent, les vivants humains féminins accouchent de leur progéniture. Et il faut que le cerveau, le crâne qui contient le cerveau, passe. C'est pour ça que chez les enfants, avant de naître, et quand vous êtes né, vous aviez un cerveau mou pour que ça se déforme un peu. Puis après, enfin, tout le monde sait ça après, hein, pour les adultes. Ça, vous aviez la tête un peu déformée en sortant. Puis ça a repris petit à petit votre tête que vous avez maintenant. D'accord ? Pour que ça passe dans les hanches, hein, dans les hanches des femmes humaines. Donc c'est pareil pour les vaches, hein, pour tous les mammifères. Hein. Il faut que le cerveau il passe, la tête elle passe. Hein. C'est pour ça que les veaux, par exemple, ils naissent sans les cornes. Hein, ça, c'est pratique. D'accord ? Ils poussent après les cornes, hein, les veaux et les cerfs et tout ça. Hein. D'accord ? Bon, je vois qu'il est l'heure, donc je vais arrêter là. Je voulais vous montrer, est-ce que j'avais encore des choses à montrer, mais c'est pas, oui, pour l'intelligence, ici, pour l'intelligence quand même, parce qu'on a dit, est-ce qu'un gros cerveau, on est intelligent? Comparons les gros cerveaux, les cerveaux. Alors regardez ici, il y a les poissons rouges et les petits oiseaux, les musaraignes, les chauves-souris, les humains, ils sont là, les éléphants dessinés avec un babar, ils sont là, les centaures pour faire rigolo, et puis les baleines. Alors le plus gros cerveau du monde, hein, c'est la baleine. Hein. Est-ce que la baleine est plus intelligente que nous? Non. Donc c'est pas que la taille du cerveau. C'est pas que la taille. On pourrait dire, ah oui,